Chapitre 10. Monsieur Longuet nous en raconte une bien bonne sur Monseigneur le Duc d'Orléans, régent de France, sur Monsieur Lasse, contrôleur général des finances, et sur la courtisane Émilie. Était-ce parce que je foulais cette vieille terre que j'avais connue, parce que je me retrouvais dans cette forêt amie parmi des feuillages familiers? Était-ce l'effet d'une longue conversation suggestive sur le vieux monde et sur les vieilles gens? Tout à coup, je sentis naître en moi le souvenir, mais un souvenir très doux, comme vous aviez l'attendrissant souvenir de jeunes années que l'on croit jamais perdues, ensevelies dans la mémoire. Et alors je vis que j'étais la même âme, car je me souvenais de Cartouche comme si nous n'étions pas séparés par 200 ans de mort. Oui, j'avais une même âme, une longue même âme. À un bout, il y avait Cartouche et à l'autre, Théophraste. Je me souvenais donc. Ceci me prit tout à fait quand nous eûmes dépassé le mur à gauche vers le nord en nous enfonçant toujours davantage dans la forêt. Nous nous assîmes à un prochain carrefour au pied d'un gros arbre fourchu sur l'herbe verte. Mes yeux brillaient du feu extraordinaire de la jeunesse en regardant ces lieux, et je commençais en ces termes. Adolphe, mon ami, il faut que je te dise qu'à cette époque, ma fortune était complète. J'étais redouté, aimé de tous. Oh, j'étais même, Adolphe, aimé de mes victimes. Oh, je les dépouillais si galamment qu'elles s'en allaient ensuite par la ville chanter mes louanges. N'était pas encore entrepris par cet épouvantable instinct sanguinaire qui devait quelques mois plus tard me faire commettre les plus grandes atrocités. Mais tout me réussissant, tous me craignant et tous m'aimant, j'étais heureux, enjoué, d'une magnifique audace, somptueux en amour, du meilleur caractère et le maître de Paris. On a dit que j'étais le maître de tous les voleurs. Ce n'était qu'à moitié vrai. Car il me fallait partager cette souveraineté avec M. Lasse, contrôleur général des finances. Notre gloire fut à son apogée dans le même temps. Je n'en étais point jaloux, car souvent il me payait tribut, lui et ses gens. Mais il imagina d'exciter le régent contre moi un soir que j'avais volé chez lui dans son hôtel, sur les indications d'un laquais, alors d'Hermott, qui était venu pour traiter l'affaire aux 1 300 000 livres d'actions du Mississippi, de la ferme des tabacs et de la Compagnie des Indes. Le régent fit venir M. d'Argenson, garde des Sceaux, et lui dit qu'il avait 8 jours pour me faire arrêter. M. d'Argenson promit tout ce qu'on voulut, pourvu qu'on lui laissât reprendre le chemin du couvent de la Madeleine du Trenel, où venait de se réfugier sa maîtresse, Mademoiselle Husson. Et 8 jours plus tard, M. d'Argenson était encore au couvent, non plus avec Mademoiselle Husson, mais avec la supérieure, de qui il disait qu'il y avait, dans une seule cuisse de la supérieure de la Madeleine du Trenel, 2 demoiselles Husson. Moi, mon cher Adolphe, pendant ce temps, je vaquais à mes petites affaires et je commandais sans souci à mes 3 000 hommes. Nous étions au mois de septembre, les nuits étaient belles, et nous profitâmes de l'une d'elles pour pénétrer chez l'ambassadeur d'Espagne, qui habitait rue de Tournon, l'ancien hôtel du maréchal d'Ancre, celui-là même qui fut occupé depuis par la garde de Paris. Nous introduisîmes dans la chambre à coucher de sa femme, nous emparant de toutes les robes, d'une boucle ornée de 27 gros diamants. Oh, on dirait, mon cher Adolphe, que tout ceci s'est passé hier. D'un collier de perles fines, de 6 assiettes, de 6 couverts, de 6 couteaux et de 6 gobelets en vermeil. Quelle chose, mon cher Adolphe, quelle chose incompréhensible que le phénomène de la mémoire. Nous roulâmes le tout dans une nappe et nous nous en fûmes souper chez la belle Hélène, qui tenait, tu te le rappelles, cabaret de la Harpe, rue de la Harpe. Ben vraiment, 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 je ne puis comprendre pourquoi je t'ai dit, tu te le rappelles, à moins que dans mon esprit, tu me représentes un ami que j'avais, et qui était aussi bon que toi, et que j'aimais comme toi, et qui s'appelait Va de bon cœur. Avec Magdelaine, dit Beaulieu, c'était mon favori. Ah, par les tripes de Madame Falaris, c'était un beau et brave jeune homme. Il était sergent aux gardes françaises et lieutenant chez moi. Car il faut te dire, mon cher Adolphe, que je commandais à un nombre considérable de gardes françaises. Lors de mon arrestation, à laquelle devait procéder M. Jean de Courtade, sergent d'affaires de la compagnie de M. de Chabannes, aidé de 40 hommes, on vit aussitôt 150 sous-officiers et soldats aux gardes françaises s'enfuir et passer aux colonies. Historique. Ils craignaient les révélations, ils redoutaient que je ne les vendisse. Ils avaient tort, car la torture ne m'a pas fait parler. Mais, oh, ces moments funestes pour revenir aux belles nuits de septembre, où nous procédions en gaieté au déménagement des Parisiens. Le régent montra plus de colère encore contre moi et contre M. d'Argenson quand il sut la triste aventure de l'ambassadeur d'Espagne. Songe maintenant à sa furie quand je lui jouais à lui le tour suivant. Va de bon cœur et étant de garde au Palais-Royal, emporta deux flambeaux de vermeil auxquels le duc d'Orléans tenait beaucoup. Rage de Monseigneur! Depuis quelque temps, on volait au Palais-Royal tout ce qui pouvait présenter quelque valeur. Le régent résolut de substituer, sans rien dire à l'orfèvrerie d'argent, celle en acier ciselé, et particulièrement pour les boucles et les poignées d'épée. Or, le premier jour qu'il emporta une de cette espèce, qu'il avait fait venir de Londres et qui lui coûtait tout de même 1 500 livres à cause de la beauté merveilleuse du travail, moi, Cartouche, je la lui volais à la sortie de l'opéra. Et le lendemain, je lui renvoyais cette poignée d'acier en morceaux avec un petit billet. Tu vois, Adolphe, que je savais écrire. Un petit billet charmant dans lequel je le plaisantais sur son avarice prétendue et lui reprochais à lui, le plus grand voleur de France, de vouloir empêcher le vivre de malheureux confrères. Historique. Du reste, il faut que ce soit entendu une fois pour toutes, c'est une histoire historique, Gaston Leroux. Il me répondit publiquement en proclamant qu'il était fort curieux de me connaître et qu'il donnerait de sa poche 20 000 livres et qu'il lui amènerait Cartouche. Le lendemain, comme il était venu en promenade à Saint-Germain et qu'il déjeunait au château, il trouvait sous sa serviette un mot dont voici à peu près les termes, mais dont voici sûrement le sens. Monseigneur, vous pouvez me voir pour rien. Soyez cette nuit à minuit derrière le mur d'Anne d'Autriche, dans la forêt au lieu-dit Saint-Joseph. Cartouche vous y attendra. Vous êtes brave, venez seul. Si vous venez accompagné, vous courrez le danger de mort. À minuit, j'attendis le régent. Et le 12e coup sonnait encore aux loges que le régent parut. Il faisait un clair de lune de féerie, comme on en voit au théâtre. La forêt semblait dégager de toutes ses branches, de tous ses feuillages, de tous ses buissons, une merveilleuse clarté bleue. Me voici, Cartouche, dit le prince. Je viens à toi armé de ma seule épée, comme tu l'as voulu. Je cours peut-être les plus grands dangers, ajouta-t-il d'un clair accent railleur, mais que ne risquerait-on pas pour voir de près à minuit, au cœur d'une forêt, la figure de Cartouche quand ça ne coûte rien? Oh, Adolphe, mon ami, j'aurais voulu que tu fusses là pour m'entendre répondre au régent de France. Certes, je ne suis que le fils d'un pauvre tonnelier de la rue du Pont-aux-Choux. Mais quel Condé, quel Montmorency se serait incliné avec plus de grâce, balayant l'herbe humide de la plume de son chapeau. Le duc de Richelieu lui-même n'aurait pas plus élégamment mis un genou en terre, comme je le fis aussitôt, ni présenté de façon plus gracieuse à Monseigneur la bourse que je venais de lui prendre dans sa poche. Je suis de Monseigneur, dis-je, le plus humble serviteur, et je le prie de reprendre à cartouche cette bourse qu'il eut l'audace de dérober avec tant d'adresse que pour bien prouver à Monseigneur que Monseigneur se trouve bien en face de cartouche. Et le régent me pria de conserver cette bourse pour l'amour de lui. Et il eut le tort de raconter par la suite cette anecdote, car le bruit courut depuis qu'il faisait partie de ma bande. Je croyais qu'il allait s'en aller, quand il me prit sous le bras et m'entraîna jusqu'à l'endroit même où nous sommes assis aujourd'hui. Donc, le régent m'avait fait l'honneur de prendre par-dessous mon bras, et je vis bien qu'il avait quelque chose de secret à me confier. Il ne tarda point à m'avouer qu'il comptait sur mon ingéniosité pour le venger d'une offense que M. le contrôleur général lui infligeait. Il me dit qu'il était tout à fait amoureux de la courtisane Émilie, qu'elle était sa maîtresse depuis 15 jours et qu'il avait appris par la Fillon que M. Lasse avait la promesse de ses faveurs pour la nuit prochaine contre le présent d'un collier de 10 000 louis qu'il lui ferait. Il en était sûr, car la Fillon ne l'avait jamais trompé. N'était-ce point par elle qu'il avait eu vent de la conspiration de Saint-Lamare? Tous les mauvais sujets de Paris connaissent la Fillon. La Fillon est une femme de 5 pieds 10 pouces, qui eut des formes admirables, une figure ravissante. Dès l'âge de 15 ans, cette beauté modèle pensa que la nature ne l'avait pas pourvue de si rares trésors pour les enfouir. Elle les prodigua. Le duc d'Orléans, longtemps avant la régence, l'aima. Il en demeura coiffé pendant plus d'un an. C'est pour elle qu'il fit construire, dans une partie retirée des jardins de Saint-Cloud, une sorte de grotte éclairée mystérieusement par quelques rayons dirigés sur un lit de natte sur lequel s'étendait sa maîtresse, tout habillée de ses cheveux blonds. Il les montra à tous ceux qui passaient par là. Il se vit ainsi de nombreux amis. Mais il y a beau temps que les 15 ans de la Fillon se sont envolés. Maintenant, elle n'a plus que la joie de l'intrigue dont elle fait de part, la galanterie et l'observation. Ainsi fournit-elle des renseignements précieux à la police et à M. d'Argenson, garde des Sceaux, et des sujets remarquables pour les amours du régent. C'est elle qui lui procura Émilie, qui est bien la plus jolie fille de Paris. Tout le monde veut la lui voler. Lasse, qui est le plus riche, a juré d'y réussir. Il lui demandait 1 heure de complaisance et lui donnait un collier de 10 000 louis dont elle raffolait. C'est des marchés conclus pour la nuit prochaine. Cartouche, me dit le régent, après m'avoir expliqué ses petites affaires, tu es un brave homme, je te donne le collier. Et il s'en alla sous le clair de lune en me faisant un petit signe de la main. Cette sorte de mission que je recevais de contrarier les amours de M. le surintendant et de venger celle du duc d'Orléans m'emplit d'un juste orgueil. Étant rentré à Paris, j'appris dès le matin, par ma police, qui était la mieux faite de l'époque, que la courtisane Émilie habitait un petit hôtel dans le Marais, au coin de la rue Barbette et des 3 pavillons, et que le régent montrait plus d'attachement pour elle qu'il n'en eut jamais pour la duchesse de Berry, dont il était dégoûté depuis longtemps pour la paramère, ou même pour sa seconde fille, Mademoiselle d'Orléans, qui venait de s'enfermer au couvent de Chelles, moins à cause de son amour pour Dieu que de son penchant pour les belles religieuses. Quelle mœurs, mon cher Adolphe, quelle mœurs! Et qu'il se consolait avec elle des mépris plus récents de Mademoiselle de Valois, uniquement occupée du duc de Richelieu. Cette courtisane, Émilie, n'était pourtant qu'une fille d'opéra, mais sa beauté, comme je te l'ai dit, dépassait tout ce qu'il pourrait imaginer. Je ne fus pas longtemps à en juger par moi-même. 24 heures après l'entrevue de Saint-Germain, c'est-à-dire le minuit suivant, je sortis d'un placard qui faisait justement l'angle de la rue des Trois Pavillons et de la rue Barbette. J'avais comme par hasard un pistolet de chaque main, ce qui fit qu'il me fut impossible de saluer décemment Mademoiselle Émilie, qui se trouvait pour l'heure dans le plus galant des habillés, et Monsieur le surintendant, qui lui présentait un écrin dans lequel brillaient les feux d'un collier qui valait pour le moins 10 000 louis. Je m'excusai de la nécessité où j'étais de garder mon chapeau sur la tête, et je priais Monsieur le surintendant, vu l'encombrement de mes mains, de refermer l'écrin sur le collier et de mettre le tout dans la poche de mon habit cannelle, lui promettant de ma reconnaissance de ce léger service. Comme il hésitait, je procédai à ma présentation. Et quand il sut que je me nommais Cartouche, une épouvante de gentillesse dont il m'accabla. Je suppliai Mademoiselle Émilie de se rassurer, lui affirmant qu'elle ne courait aucun danger, ce dont elle fut convaincue car elle se prit à rire, avec de grands éclats, de la déconfiture de Monsieur Las. Je riais aussi. Je dis à Monsieur Las que son collier valait 10 000 louis, mais que s'il voulait envoyer le lendemain vers 5 heures de relevé, un homme de confiance au coin de la rue de Vaugirard et de la rue des Fossés, Monsieur le Prince, avec 5 000 louis, on lui remettrait le collier. Parole d'honneur de Cartouche. Il me répondit que c'était marché conclu, et nous prîmes congé les uns des autres. 2 jours après, on raconta l'aventure au régent, qui fut dans la joie d'abord, mais qui changea de visage quand il sut la fin de l'événement. L'homme de Las avait donné les 5 000 louis, comme il avait été entendu, à l'homme de Cartouche, et il attendait l'écrin, quand l'autre lui répondit que Cartouche s'était déjà chargé de le porter lui-même à Mademoiselle Émilie. Las courut chez la courtisane, vit le collier et en demanda le prix. « C'est déjà touché ?» répliqua Émilie en lui tournant le dos. « Et par qui ?» s'écria Monsieur le surintendant. « Ben évidemment par celui qui m'a apporté le collier, par Cartouche qui sort d'ici. Ne devais-je pas payer contre réception du collier ? Et tout de suite, au long, j'ai point de crédit, moi » ajouta-t-elle en s'esclaffant sur la mine déconfite de l'homme de la rue Quincampoix. Je ne pouvais lui donner d'action de mon Mississippi. Au palais royal, le mot, mon cher Adolphe, eut le succès que tu devines. Il empêche que le régent trouva que j'avais dépassé les instructions et fit revenir encore M. d'Argenson de Sainte-Madeleine du Trénel pour l'entretenir de la méchante humeur où il était à mon endroit. De fait, mon cher Adolphe, j'étais très porté sur les femmes, et elles contribuèrent pour beaucoup à ma perte. À ce propos, toi qui me connais et qui sais la sagesse de mes mœurs et de mon amour exclusif de Marceline, tu dois te dire, comme 200 ans vous changent un homme. Enchanté de sa petite narration, M. Longuet se mit à rire de l'inoffensive plaisanterie qui la terminait. Comme 200 ans vous changent un homme. Il plaisantait vraiment, sincèrement. Ah ah, il blaguait. Ainsi en va-t-il du bourgeois parisien aujourd'hui, qui commence par s'épouvanter d'un rien et qui finit par rire de tout. Monsieur Longuerne était arrivé à rire de lui-même. L'antithèse surnaturelle et terrifiante entre Cartouche et Longuet qui l'avait plongé d'abord dans la plus sombre effroi, l'incitait, quelques jours passés, à faire des maux, le malheureux. Il insultait le destin, il riait au tonnerre, il blaguait la face de Dieu. Son excuse est qu'il n'y voyait pas d'importance. Il finissait par trouver son cas un peu bizarre. Il s'en amusait avec Adolphe. Il résolut même, à part lui, de ne point sceller plus longtemps sa vraie personnalité à sa chère Marceline. Elle était intelligente, elle comprendrait. Il s'était imaginé que cette personnalité pouvait présenter des dangers pour lui-même et pour l'ordre social. Mais voilà qu'elle n'existait plus à l'état réel, mais à l'unique état de souvenir, de doux souvenir. Il n'aurait pas à combattre Cartouche comme il l'avait redouté. Il n'aurait qu'à lui demander de temps en temps quelque anecdote un peu salée qui procurerait du succès à M. Lourguet dans les conversations. Cette histoire du régent de Lasse et de la courtisane Émilie n'était-elle point la preuve de cet état d'âme? Comme elle avait coulé de sa mémoire sans effort, avec gentillesse et galanterie. Mais quel mal donc y avait-il à cela? Après tout, s'il avait été Cartouche, il n'y avait point de sa faute, il serait bien bête de s'en faire de la bile. Il se frotta les mains, et sa jubilation était telle qu'il ne cessa de plaisanter sur tout, même sur les chopinettes, sur le coq et sur la fourre, qui, cependant, semblait dans le document marquer les trois points d'un triangle qui renfermait une fortune. Mais il plaisantait la fortune. Au crépuscule, ils reprirent le chemin de Paris. Comme ils arrivaient à la gare Saint-Lazare, M. Adolphe Le Camus lui posa la question suivante. « Mon ami, quand tu es Cartouche, que tu te promènes dans Paris et que tu vis de la vie de Paris, dis-moi ce qui t'étonne le plus. Est-ce le téléphone, le chemin de fer, le métro, la tour Eiffel ?» Et il répondit, « Oh non, non, ce qui m'étonne le plus quand je suis Cartouche, c'est les sergents de ville. » Chapitre 12. Étrange attitude d'un petit chat violet. Il me semble que le destin qui commande aux hommes prend un détestable plaisir à faire précéder les pires catastrophes des joies les plus sereines. Ainsi, la tempête n'est-elle souvent annoncée que par le calme sournois des éléments. Voyez ces trois êtres, l'homme, la femme et l'amant. Arrêtez votre regard et votre pensée sur ce charmant tableau de fin de dessert. Ils ont dîné au restaurant, en cabinet particulier. L'homme allume un cigare, la femme allume une cigarette russe, et l'amant, de son regard langoureux et de ses discours suaves aux termes choisis par l'amour, allume la femme, mais d'une flamme tellement douce, d'un feu si discret, que rien ne semble devoir troubler jamais la paix de leur triple et aimable digestion. Dites-moi si ces êtres ne sont pas heureux, non seulement du bonheur présent, mais de tout celui à venir. N'est-ce pas qu'il est de toute harmonie que cela continue? N'est-ce pas que la nuit est pure? N'est-ce pas que la brise qui agite les stores légers est odorante? N'est-ce pas qu'il y a des milliards d'étoiles et que la vie est éternellement bonne? N'est-ce pas que Théophraste, sans le savoir, sera éternellement cocu? Mensonge de la terre et du ciel, mensonge de la vie, mensonge du bonheur, le bonheur. Il cache un gouffre plus profond que celui qui se dissimule derrière le sourire en fait des vagues. Il renferme des ouragans plus chargés de foudre que le grain qui monte au radieux horizon des mers de Cochinchine. Tout le monde sait que les tempêtes les plus épouvantables sont celles des mers de la Cochinchine. On les appelle typhons. Oui, un petit rien, grain de rien du tout, annonce et précède les perturbations les plus regrettables de l'atmosphère. Ainsi, au commencement des véritables grands malheurs de Théophraste, de Marceline et d'Anolphe, il y eut quelque chose qui n'a pas grande importance en soi, l'étrange attitude d'un petit chat violet. Je n'ai pas encore décrit par le menu l'appartement qu'occupait le ménage Longuet rue Girandeau. La chose devient nécessaire. C'était un petit appartement de 1 200 francs de loyer. On entrait par une porte à deux battants dans un vestibule aux dimensions restreintes, comme vous pensez bien. Un bahut de chêne ciré l'encombrait encore. Outre la porte d'entrée, quatre portes ouvraient sur ce vestibule. C'était la porte de la cuisine et la porte de la salle à manger, à gauche, la porte du salon et celle de la chambre à coucher, à droite. Le salon et la chambre à coucher étaient sur la rue. La cuisine et la salle à manger étaient sur la cour. Sur la rue encore donnait la fenêtre d'un petit cabinet dont M. Longuet avait fait son bureau. On pénétrait dans ce petit cabinet à la fois par une porte qui ouvrait sur la chambre à coucher et par une porte qui ouvrait sur la salle à manger. Que ceci soit entendu une fois pour toutes. Je n'ai point à vous donner le détail de l'ameublement de cet honnête appartement. Il me suffit de vous dire ce qui est beaucoup plus important tout de même que vous ne pourriez l'imaginer, que dans le petit cabinet, il y avait un bureau, puisque c'était à cause de ce bureau que le cabinet s'appelait, dans le langage courant du ménage, le bureau. Que ce bureau était appuyé contre le mur, qu'il avait des tiroirs au-dessus de la table de travail et sous la table de travail, que cette table de travail se refermait sur elle-même et présentait alors un ventre harmonieusement arrondi, que ce ventre était percé à l'endroit du nombril d'une serrure et que lorsque cette serrure était fermée, toutes les serrures de tous les tiroirs se trouvaient par le fait fermées. À l'ordinaire, quand le bureau était ainsi fermé, M. Théophraste Longuet, à l'endroit de la serrure, autant pour cacher cette serrure nombrie qu'en matière d'ornement, déposait un petit chat violet. Ce petit chat violet, qui avait des yeux de verre, n'était autre chose qu'une ingénieuse pelote soyeuse destinée à essuyer l'encre des plumes et à recevoir la piqûre des épingles, objet nécessaire à tout individu qui travaille de tête. Il ne faut pas oublier non plus que dans le bureau se trouvait encore une table à thé. Cela expliqué, nous n'avons plus qu'à reprendre nos trois personnages où nous les avons quittés. L'addition payée, Adolphe offre son bras à Madeleine. Théophraste suit avec son ombrelle verte. Une heure de marche lente pour faire la digestion les conduit à la porte de la rue Gérando. On prie Adolphe de monter. Marceline insiste. Adolphe les accompagne dans l'escalier. Il pénètre avec eux dans le vestibule. Il engage ses amis à se coucher tout de suite, car le lendemain on doit se lever de bonne heure. Il embrasse Marceline. Il a pris depuis peu l'habitude d'embrasser Marceline le soir avant d'aller se coucher, parce que Théophraste l'a exigé absolument. Il serre avec une démonstration sincère d'amitié, fervente, la main de Théophraste. Il est déjà sur le palier. Et pendant qu'il descend l'escalier, Théophraste lui tient la lampe. Cette petite lampe était sur le bahut. Théophraste n'a eu qu'à allumer en entrant. À demain, murmure Adolphe dans la nuit de la cage. Et puis on entend le grand coup sourd de la porte qui se referme. Chapitre 12. Étrange attitude d'un petit chat violet. Adolphe est parti pour la rue des Francs-Bourgeois qu'il habite et où il va passer une excellente nuit. Théophraste a refermé la porte de l'appartement à clé avec le plus grand soin. Il a fait deux tours ainsi que lui demande Marceline. C'est même imprudent de ne pas avoir de verrou de sûreté. Mais il n'est jamais rien arrivé dans la maison. Il n'importe. Maintenant qu'on est très souvent à la campagne, il faut faire un verrou de sûreté. Théophraste et Marceline ont visité minutieusement l'appartement. Ils sont allés dans la cuisine, dans la chambre à la manger, dans le salon, dans le bureau, et même dans les water closets avant de se retrouver dans leur chambre à coucher. Ils ont constaté qu'en leur absence, il ne s'est rien passé d'anormal. Ils se déshabillent. Bon, je crois bien que c'est la troisième fois depuis que nous avons entrepris le récit de l'aventure de Théophraste que nous nous trouvons dans la chambre à coucher du ménage. Oh, c'est la faute des événements, hein. Je n'y suis pour rien. Ils ont couché, ils ont soufflé la bougie, posée sur la table de nuit. Selon sa coutume, Théophraste est dans le coin. Théophraste n'est pas brave, il ne s'en défend pas. Marceline non plus. Cependant, elle s'endort en pensant à Adolphe, mais elle a dans sa main la main de Théophraste. Celui-ci vaguement songe aux drames mystérieux qui sont enfermés dans les ténèbres. Il se dit que Cartouche, lui, n'avait pas peur, et il envie le courage de Cartouche. Il s'amuse encore à fermer les yeux avec force et à rouvrir ses paupières dans la nuit, ce qui fait qu'il aperçoit une grande quantité de cercles bleus, verts, violets, qui s'agrandissent, s'éloignent, s'arrêtent soudain et s'envolent rapidement, et d'autres cercles multicolores apparaissent encore pour s'évanouir à nouveau. Puis ce ne sont plus des cercles, ce sont bel et bien des figures avec des yeux, des nez, des bouches et des bonnets de coton. Il voudrait fermer les yeux pour ne plus voir ces figures, ces visages fantastiques. Mais il s'aperçoit que ses yeux sont fermés. C'est drôle, oh, tout à fait incroyablement drôle. Pour voir des figures dans la nuit, il faut fermer les yeux. Il dort. Il ronfle. La nuit, pas une voiture dans la rue. Silence. Le ronflement de Théophraste a cessé. Est-ce que M. Longuet dort toujours? Non, il ne dort plus. Il a la gorge sèche. Il ouvre dans les ténèbres des yeux d'effroi. Il appuie sa main froide, sa main que glace la peur, sur la cuisse chaude de son épouse. Il la réveille et dit, mais si bas et bas, qu'il est le seul à savoir qu'il parle. Entends-tu ? Marceline ne respire plus. Il se serre la main sous le drap, sans le remuer. Il tend l'oreille. En effet, on entend quelque chose dans l'appartement. Vraiment, vraiment, il ne faut pas rire. Celui qui rit du bruit inexpliqué la nuit dans l'appartement, celui-là n'est pas encore né. Oh, il y a des gens très braves, tout à fait extrêmement braves, et que rien n'arrête et qui passeraient partout, partout le soir, dans les rues les plus désertes, dans les quartiers les plus malfamés, et qui n'hésiteraient pas à s'aventurer pour leur plaisir dans des cul-de-sac sans réverbère. Mais moi, je vous dis parce que c'est la vérité, parce que vous savez que c'est la vérité. Celui qui rit du bruit inexpliqué la nuit dans l'appartement, celui-ci n'est pas encore né. Nous avons assisté déjà à l'insomnie de Théophraste, la nuit de la révélation. Et alors, à cause du grand, du formidable secret jailli des pierres de la conciergerie, l'anxiété s'était assise sur son cœur. Eh bien, cette anxiété, qui avait cependant sa terrible raison d'être, n'était rien, mais rien du tout, comparé à celle qui l'étranglait, parce qu'il y avait la nuit dans l'appartement un bruit inexpliqué. C'était un drôle de bruit, certainement, mais tout à fait réel. Sans aucun doute, sans aucun doute, ce bruit faisait son ron, 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 ron. Et ce bruit faisait cela derrière le mur, dans la pièce à côté. Vous savez qu'il n'y a rien de plus effrayant la nuit dans l'appartement qu'un bruit inexpliqué, si ce n'est le bruit d'un craquement de meubles, qui est un bruit expliqué, mais plus effrayant encore. Alors, oh, alors, vous entendez votre cœur qui bat contre votre poitrine, comme on frappe à une porte avant de l'ouvrir. Et il y a des gens, non, des gens pourtant braves, qui mettent précipitamment leurs mains contre leur cœur, parce qu'ils savent très bien que s'ils oubliaient cette précaution, leur poitrine s'ouvrirait et que leur cœur roulerait sur la descente de lit. Eh bien, je le dis, le bruit que Théophraste et Marceline écoutaient, dégouttant de sueur, était bien autrement plein d'épouvante qu'un craquement de meubles, parce que cela faisait derrière le mur, ron, 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 et que cela était le ronron d'un chat, et que ce ronron, oh, il le reconnaissait bien, était le ronron du chat violet. Mais c'est le ronron du chat violet, va voir ce qu'il a, Adolf. Elle était tellement émue qu'elle appelait Théophraste Adolf. Mais Théophraste ne s'en apercevait même pas. Théophraste ne bougeait pas. Il aurait donné 100 000 timbres en caoutchouc pour être en train de se promener à midi sur le boulevard. « Ce n'est pas naturel qu'il ronronne ainsi, » ajouta-t-elle. « Va voir ce qu'il a. Il le faut, Théophraste. Prends dans le tiroir de la table de nuit le revolver. »« Bon, tu sais bien, » eut la force de dire Théophraste, « qu'il n'est pas chargé. » Il n'était pas chargé parce que M. Longuet ne savait pas comment on charge un revolver. Encore moins comment on le décharge, et qu'il n'avait pas osé avouer son ignorance à l'armurier. Ils écoutèrent encore. Le ronron s'était tu. Marceline eut cette espérance qu'il s'était peut-être trompé. Alors Théophraste poussa un petit soupir lamentable, sortit du lit, prit le revolver, et tout doucement ouvrit la porte donnant sur son bureau. La nuit était claire, la lune entrait dans la pièce en grande nappe bleue. Et ce que vit Théophraste le fit reculer aussitôt, cependant qu'il laissait échapper un gémissement sourd et qu'il repoussait la porte en s'appuyant le dos dessus, comme pour empêcher ce qu'il avait vu d'entrer dans la chambre à coucher. « Quoi ?» demanda Marceline, soulevée sur les oreillers. Théophraste, claquant des dents, dit « Il ne ronronne plus, mais il a bougé. »« Où est-il ? » ?»« Mais il est sur la table à thé. »« Oui, oui. »« Es-tu bien sûr qu'il était hier soir à sa place ?» Ben, tout à fait sûr, je lui ai piqué dans la tête les pagues de ma cravate. Il était sur le bureau, comme toujours. Ben, tu auras cru, fit Marceline. Et si je faisais de la lumière ? Non, 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 oh, non, non, on peut s'échapper dans l'obscurité. Mais si j'allais ouvrir la porte du palier, on pourrait appeler la concierge. « Bon, bon, ne t'épouvante donc pas, » fit Marceline, qui reprenait peu à peu ses sens depuis qu'elle n'entendait plus le chat violet. « C'est une illusion que nous avons eue. Tu l'as changé de place hier soir et il n'a pas ronronné. »« Bon, Après tout, c'est bien possible, dit Théophraste, qui ne demandait qu'à se recoucher. Remets-le à sa place, insista Marceline. Théophraste s'y décida. Il alla dans le bureau et, d'une main hâtive et tremblante, prit le chat sur la table à thé, le replaça sur le bureau et revint s'étendre dans la douce chaleur du lit. Le chat violet n'était pas plus tôt sur le bureau qu'il se reprit à ronronner. Ron, 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 ron. Mais cette fois, bien qu'ils l'entendissent parfaitement, ni Théophraste ni Marceline ne s'effrayèrent. Ils sourirent même dans les ténèbres de la peur qu'ils avaient eue. Cependant, ils ne se rendormirent point tout de suite, même après que le deuxième ronron eut cessé. Un quart d'heure venait de s'écouler, quand une seconde épouvante les redressa à nouveau sur leur séant. Un troisième ronron se faisait entendre. Si le premier ronron les avait comblés d'effroi, si le second ronron les avait fait sourire, le troisième ronron... Suivez bien la succession des ronrons, car je vous jure que ce n'est pas risible. Les enivra de terreur. Oh, c'est pas possible, murmura Marceline, mais nous sommes victimes d'une hallucination. Du reste, cela n'a rien d'étonnant depuis ce qui nous est arrivé à la conciergerie. Le ronron s'était encore tu. Ce fut Marceline, cette fois, qui se leva. Elle poussa la porte du cabinet et se retourna aussitôt vers Théophraste. Elle dit, « Mais avec quelle pauvre voix, quelle mourante voix !»« Tu n'as donc pas remis le chat violet sur le bureau ?»« Mais si !» gémit Théophraste. « Eh bien, il est retourné sur la table à thé. »« Mon Dieu !» fit le pauvre homme en se cachant la tête sous ses couvertures. Le chat violet ne ronronnait plus. Marceline fut persuadée que son mari, dans le désordre de son esprit, avait laissé le chat sur la table à thé. Elle alla l'y prendre et le replaça sur le bureau, en retenant sa respiration. Le chat violet fit entendre son ronron pour la quatrième fois, mais ni Marceline ni Théophraste n'y virent cette fois, pas plus que la seconde, d'inconvénient. Marceline se recoucha. Le quatrième ronron s'était tu. Un nouveau quart d'heure s'écoula, au bout duquel cinquième ronron. Alors, chose incroyable, Théophraste bondit comme un tigre et s'écria: « Oh, mais c'est trop fort à la fin! Par les tripes de Madame de Falaris, qu'est-ce qui m'a foutu un pareil chat violet !»